They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的母
女咱们家，正好。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, comme chaque vendredi. On vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler ce matin du Venezuela. Depuis de longs mois maintenant, le Venezuela est plongé dans une crise profonde. Les pénuries y sont de plus en plus graves. L'inflation y atteint des records, officiellement 180% pour l'année 2015, le taux le plus élevé au monde. Mais on envisage des taux avoisinant les peut-être 700% pour cette année. On comprend alors que dans ce contexte, les pillages et autres lynchages se multiplient et que la violence secoue ce pays dévasté, pourtant riche de ressources pétrolières colossales. La crise économique et sociale a naturellement débouché sur une crise politique. En décembre dernier, les anti-chavistes de la MUD, la table pour l'unité démocratique, ont remporté les législatives et sont devenus majoritaires au Parlement. Depuis, ils font tout pour forcer le président à quitter le pouvoir. Hier, les autorités devaient se prononcer sur la demande de l'opposition pour l'organisation d'un référendum visant à révoquer Nicolas Maduro. Mais au dernier moment, elle a été annulée et reportée sine die, provoquant la colère de l'opposition et des manifestants. Alors combien de temps encore le successeur d'Hugo Chavez pourra-t-il rester à la tête de l'État? Quels sont les risques de voir ce pays basculer dans l'explosion sociale, la crise institutionnelle, insurrectionnelle, voire la guerre civile? Voilà les questions qu'on va se poser dans quelques instants avec deux invités d'ores et déjà avec nous ici en studio. Paula Vasquez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes sociologue, enseignante à l'EHESS. À vos côtés, François-Xavier Froland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, reporter à Jeune Afrique, vous avez été le correspondant de Radio France au Venezuela et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage sur ce sujet qui veut la peau d'Hugo Chavez qui était paru aux éditions du Cherche Midi. Pour l'heure, on va recevoir notre journaliste, comme chaque vendredi, nous sommes en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. On reçoit donc chaque année ceux qui ont le privilège de recevoir ce prix. Le prix audiovisuel a été décerné à Sophie Nivelle-Cardinal et Étienne Huvert pour leur documentaire « Disparu, la guerre invisible de Syrie ». Un coup de projecteur sur les 200 000 « disparus », je mets des guillemets, du régime de Bachar al-Assad. On avait eu l'occasion de recevoir Sophie Nivelle-Cardinal ici même à ce micro le 6 novembre dernier au moment de sa diffusion. Donc j'invite les auditeurs peut-être à retrouver cette discussion. Et puis par ailleurs, on la retrouvera tout à l'heure dans la grande table de Caroline Brouet. On va donc recevoir celle qui a reçu le prix presse écrite. Bonjour Claire Ménial.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Afrique au service international du Point. Vous êtes donc la lauréate de ce prix Albert Londres 2016 pour une série d'articles sur le Niger, sur le Kenya, la Gambie, sur l'épidémie d'Ebola au Nigeria. Bravo d'abord.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous ressentez? Fierté, j'imagine?
Très impressionnée, oui, fière.
Alors, votre travail s'est beaucoup concentré sur la question de l'immigration. Vous êtes allé à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui cherchent à gagner l'Europe. D'abord sur les pistes du Sahara et du Sahel, et puis empruntant ces embarcations pour traverser la Méditerranée. Ce sont ces fameux migrants économiques dont d'aucuns considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment de raisons pour venir jusqu'ici. Vous rappelez que si l'on s'en tient, en tout cas, aux chiffres officiels, sur les presque 4000 personnes mortes en Méditerranée en 2015, presque les deux tiers sont des Africains. Pas des Syriens, pas des Irakiens qui ont fui la guerre. Si les Africains sont moins nombreux que les personnes venues du Moyen-Orient, les routes qu'ils empruntent sont beaucoup plus mortelles.
Oui, en effet, ça représente même plus que ça. En réalité, sur l'année dernière, c'est presque 85% des morts, les gens qui empruntent ce qu'on appelle la route de la Méditerranée centrale et qui sont en très grande majorité des Ouest-Africains. Et en effet, ils fuient pour raisons économiques. Et par ailleurs, vous disiez des hommes et des femmes, c'est quand même en grande majorité des hommes ouais. En Afrique de l'Ouest.
L'un de vos articles, donc on va commencer par le Niger, celui consacré au Niger s'ouvre sur Agadez, la plus importante ville du nord du Niger. Alors Agadez, j'ai regardé, ça vient du mot Egdez, en tamashek, qui veut dire visiter. Donc Agadez, c'est une ville qui, depuis des siècles, est visitée et qui constitue finalement une sorte de carrefour pour les caravanes qui sillonnent la région. Aujourd'hui, Agadez est devenue une véritable plaque tournante dans laquelle s'organise le voyage de milliers de personnes qui grimpe dans ces 4x4 vers la Libye. On parlera tout à l'heure de la Libye. Vous dites que chaque jour, on voit débarquer des centaines de jeunes venus, notamment de Niamey. Quand ils arrivent à Agadez, comment et par qui est-ce qu'ils sont pris en charge?
Alors, Agadez est en fait le centre de trafic d'immigration et c'est aussi le début de la route organisée jusqu'à Agadez. Ils peuvent prendre des bus de ligne, tout bête, empruntés par tous les Ouest-Africains. À partir de là, ils ont besoin d'un passeur puisqu'ils montent sur des pick-up pour la Libye. Et en fait, le système est assez bien organisé. Le passeur est en lien avec ce qu'on appelle un chef de ghetto. Les ghettos étant ces maisons, si on peut appeler ça des maisons, totalement insalubres, où ils attendent un pick-up.
Et à qui appartiennent ces maisons, ces ghettos, comme on les appelle ?
Ce sont des Nigériens, des habitants d'Agadez, sachant que chacun vient par une filière organisée par quelqu'un de son propre pays. Les Sénégalais sont en contact avec les Sénégalais.
On les regroupe par nationalité,
absolument,
en fait.
Absolument, les Maliens avec les Maliens, les Gambiens avec les Gambiens. Les Gambiens, bien qu'ils viennent d'un pays très petit, 1,9 million d'habitants, représentent une énorme part des migrants.
Ce que vous expliquez, c'est que souvent ces passeurs sont d'anciens migrants eux-mêmes. C'est le cas par exemple d'Ibrahim, qui est une des figures qu'on croise dans votre papier, ou encore Ali, qui est un jeune Sénégalais qui gère justement ces ghettos. Et vous dites qu'ils se nourrissent d'une certaine manière des nouveaux arrivants, pour s'enrichir et peut-être pour eux ensuite partir.
Absolument, ce sont entre guillemets des migrants qui ont réussi, c'est, eux ils considèrent que c'est comme ça qu'on peut les appeler. En revanche, ils considèrent aussi qu'ils fournissent un service à des gens qui le demandent, ils voient absolument pas le mal. Par ailleurs, les passeurs d'Agadez ont un profil un peu particulier, ce sont d'anciens guides touristiques, ceux qui vont réellement faire la route jusqu'à la Libye. Ce sont des gens qui avant guidaient des touristes et depuis les enlèvements, depuis que la zone est classée en zone rouge, il n'y a plus de tourisme. Agadez, c'est un endroit magnifique. Hein. C'était le départ des caravanes pour le Sahara. Évidemment, le tourisme aujourd'hui est totalement mort. Donc, ces gens qui connaissent la route par cœur vers la Libye ont juste pris d'autres clients aujourd'hui qui sont les migrants.
L'année dernière, en mai 2015, le Niger avait fait voter une loi justement contre le trafic illicite de migrants. Quel effet cette loi a eu sur les chefs de ghetto, sur les passeurs?
Il y a eu quelques descentes dans des ghettos. Les ghettos ont fermé sur le coup et puis ils ont rouvert trois rues plus loin.
Dans cette région, on a quand même, Claire Maynal, une organisation intergouvernementale qui s'appelle la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui regroupe un certain nombre d'États, une quinzaine de la région. On est dans un espace où, en théorie en tout cas, il y a une totale liberté de circulation, sauf qu'en réalité, dans la pratique, c'est assez différent. Tout le monde doit payer, et notamment payer les policiers.
Ils sont raquettés non seulement à chaque entrée dans un pays, mais en réalité, il y a des sortes de checkpoints aussi à chaque entrée de ville. Et ça devient particulièrement flagrant à partir du Burkina Faso. On vous explique qu'ils sont très régulièrement raquettés, voire, comme ils disent, chicotés, c'est-à-dire battus s'ils refusent de payer. La plupart du temps, ils ne peuvent pas payer. Donc ce sont des migrants qui partent déjà avec une somme très réduite pour l'objectif qu'ils se sont fixés et qui doivent très souvent travailler en chemin, mais parfois ils sont emprisonnés par ces mêmes policiers ou douaniers. Donc ils arrivent souvent à Agadez avec les poches vides.
Et parfois les passeurs piègent littéralement, c'est ce que vous racontez, les candidats à l'exil, notamment cette fameuse maison des dettes dans laquelle on les enferme. C'est le cas par exemple du jeune Sénégalais que vous avez rencontré, Ibrahim. Vous nous racontez un peu ce qui lui est arrivé?
Oui, alors ça c'est aussi très bien organisé. Ça se déroule plutôt à l'arrivée en Libye où on leur explique souvent qu'ils n'ont pas payé assez. Et donc on les emmène directement dans un endroit où ils sont kidnappés, torturés, raquettés.
Il y a beaucoup d'argent évidemment qui circule du côté d'Agadez et c'est peut-être ce qui explique aussi, et c'est ce que vous raconte le maire d'Agadez, qui est autant de banques ces dernières années. Il vous dit, je crois qu'il y a aujourd'hui 8 banques, c'est ce que vous dites dans votre papier, alors qu'il y a quelques années, il y a à peine 10 ans,
oui,
il y avait
même
à peine 3, quoi. C'est tout petit, donc il n'y a pas véritablement de raison qu'elle se développe. Or, c'est le cas.
Oui, il y a énormément d'argent dans le trafic lui-même et en fait, dans la migration elle-même, enfin ça, on estime aujourd'hui que, par exemple, pour la Gambie, ça représenterait 20% du PIB, ce qui est envoyé par ceux qui ont réussi à traverser en Europe. Donc on comprend assez bien, dans ces circonstances, que certains présidents ne soient pas extrêmement actifs contre ce problème de migration.
Et à qui ça profite au Niger, je veux dire, à Agadez? Est-ce que, d'une certaine manière, la population bénéficie de tout ça aussi? Parce qu'on a beaucoup dit, il y a eu un certain nombre de rapports, que tout cela allait notamment dans les poches de certain nombre de groupes armés, notamment de ceux qui sont affiliés à Daesh, mais pas seulement. Est-ce que ça profite aussi un petit peu aux populations locales?
Bah oui, c'est comme je disais, c'est un travail de substitution, étant donné qu'il n'y a plus de touristes, quoi. Les méharés dans le Sahara, c'est fini.
Alors, une fois arrivé en Libye, alors qu'on le sait, les naufrages continuent. Le 27 mai dernier, à quelques jours encore, on a eu un naufrage qui a fait près de 700 victimes. L'embarcation de fortune s'est abîmée. Les migrants, eux, continuent à s'élancer depuis les côtes libyennes. Vous avez réalisé récemment un article justement sur la Libye, Les rivages de l'enfer. Vous êtes rendu sur les plages de Garabouli, à une cinquantaine de kilomètres de Tripoli. Une plage sur laquelle régulièrement les membres du Croissant Rouge viennent retirer les corps sans vie. Échouer comme ça sur le sable, mais avec le conflit évidemment qui déchire le pays, il faut pas trop non plus en attendre des autorités qui ne les conduisent même pas à la morgue, c'est ce que vous racontez. Et quand vous demandez si on a une idée de la nationalité des personnes qu'on vient de retrouver, on vous répond c'est des nègres.
Oui, ben, en fait, pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire que pendant tout le trajet, ces migrants sont rackettés, on leur prend souvent leurs papiers. Donc, contrairement aux migrants de l'autre route, les Irakiens, les Afghans, les Syriens, ceux qu'on trouve ici n'ont jamais de papiers. Donc, en effet, et puis pour les Libyens, il y a quand même un racisme assez prononcé, donc ils ne font pas tellement la différence, en effet.
Oui, parce que, et d'ailleurs, qui existe depuis un certain temps, parce qu'il ne faut pas penser que la migration africaine à destination de la Libye, c'est un phénomène nouveau. Ça fait très longtemps que le pays accueille, je mets des guillemets, un certain nombre de populations qui viennent de cette partie-là du continent. Ça a même été, on le sait, pendant des années, un véritable levier de pression pour Kadhafi qui menaçait d'ouvrir les vannes, entre guillemets, pour laisser partir ses candidats à l'exil vers l'Europe. Par ailleurs, quand on avait besoin de main-d'œuvre pour construire des routes, pour construire des ponts, des immeubles, etc., on faisait venir justement toute cette main-d'œuvre. Donc il y a depuis longtemps, en fait, cette culture par laquelle on fait venir des gens de cette Afrique subsaharienne pour leur confier des bases œuvres, ce qui a produit quand même un certain mépris, pour pas dire carrément du racisme à leur égard.
Le système de Kadhafi était établi sur une organisation très simple. Enfin, il y avait d'une part la répression, d'autre part la répartition de la manne pétrolière en réalité. Donc vous aviez des Libyens qui venaient toucher leur chèque à la fin du mois pour des administrations dans lesquelles ils ne travaillaient pas. Mais en effet, tout ce qui était, comme vous dites, construction des infrastructures, travail dans les hôtels, les restaurants, etc., était accompli par des migrants très souvent ouest-africains, en grande majorité.
Alors là aussi, en Libye, un certain nombre d'Africains qui ne sont pas des Libyens, qui restent sur place pour y travailler. C'est le cas par exemple de Paul Camara, que vous avez rencontré, qui est là depuis plus de 10 ans, depuis 2003 je crois. C'est un Sénégalais qui vient faire son business. Et son business, en l'occurrence, il n'est pas sans lien avec le trafic de migrants aujourd'hui.
Alors son business, en effet, est très clair. Lui, il a une façon jolie d'en parler. Il dit, ce serait malhonnête de dire que je suis honnête, mais je ne suis pas passeur. Mais cela dit, il aide, entre guillemets, les migrants à financer leur trajet avec intérêt. Ce qui a un double avantage, c'est que, en effet, ça lui permet de toucher pas mal d'argent, et qu'en plus, comme aujourd'hui, les transferts d'argent sont impossibles depuis la Libye, puisque la plupart des banques ne fonctionnent toujours pas, et bien l'argent est versé directement à sa famille, par la famille du migrant, au Sénégal.
Et il a des rabatteurs qui vont lui ramener les candidats à la traversée. Ouais. Vous êtes intéressé au modèle économique, je mets des guillemets, de ce trafic. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement combien ça coûte d'investir dans le matériel, les bateaux, les moteurs, et combien ça rapporte ?
Oh bah, c'est un business extrêmement profitable. On estime, si on fait un rapide calcul, que le passeur investit dans un petit canot acheté en Égypte, en caoutchouc, sur lequel ils ajoutent des planches en général qu'ils trouvent dans les chantiers un peu partout dans Tripoli, parce que ça élargit la base et que ça évite que le bateau ne ploie. Vous ajoutez un téléphone satellite, c'est à peu près
qui va leur servir
qui
à
va
appeler
leur servir, ça, qui va leur servir à appeler
et les gardes-côtes italiens quand ils arrivent dans les eaux internationales, en gros.
Ouais, et ils prévoient de l'essence uniquement pour arriver justement en eau internationale. Et donc, en gros, ils dépensent à peu près 9000 euros pour un gain d'à peu près 100 000.
Ouais. D'accord, donc ils multiplient la mise par 10.
Oui, à peu près. Bon, sachant que ce ne sont vraiment pas des bateaux qui sont faits pour arriver à destination. Enfin, ce que j'ai vu échouer sur la plage, c'est bon pour traverser une piscine à peu près, quoi.
Et en l'occurrence, eux, ces investisseurs, je mets des guillemets une fois encore, ce sont des locaux ?
Non, ce sont des Libyens. En haut de la pyramide, ce sont des Libyens. Vous avez ce qu'on appelle les coxeurs, c'est un terme ouest-africain, qui sont au grade d'en dessous, qui eux recrutent des gens de leur propre pays. Mais en haut de la pyramide, ce sont des Libyens.
Je parlais du modèle économique parce que tout simplement, je reprends la formule qui avait été utilisée par l'Union européenne. On sait qu'il y a ce programme qui a été mis en place européen qui s'appelle SOFIA, qui est destiné à assécher justement le modèle économique des passeurs. C'est une mission qui vise à identifier, à capturer, neutraliser les navires et les embarcations en mer et à s'attaquer aux ressources qui sont utilisées ou soupçonnées d'être utilisées par des passeurs ou des trafiquants de migrants. Quel bilan est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui quand on se rend sur place ? Est-ce qu'on a l'impression que ça a permis de diminuer le trafic ?
Non, c'est très limité, et comme d'autant que vous venez de le dire, si l'idée est d'assécher le trafic en neutralisant les embarcations, le passeur l'a déjà budgété comme étant un bien qu'il va perdre. Enfin, ça leur fait ni chaud ni froid de les perdre, les bateaux. Ils n'ont pas prévu de les récupérer.
Il y a quand même des passeurs qui sont retrouvés devant la justice italienne.
Oui, quelques-uns. Oui.
Et en tout cas, les candidats à l'exil, eux, ne sont absolument pas découragés. Vous avez rencontré le porte-parole des gardes-côtes libyennes. Comment est-ce qu'il analyse la situation ?
Extrêmement en colère contre l'Europe qui passe un accord avec la Turquie et pas avec la Libye. Alors après, il y a aussi des théories du complot, comme quoi ça serait organisé depuis l'Europe, comme quoi ça profite à l'Europe. Mais bon, en gros, ils sont extrêmement contrariés parce qu'ils ont l'impression de faire notre boulot.
Oui, et puis il nous rappelle aussi que c'est nous qui avons renversé le régime de Kadhafi, que c'est l'OTAN qui a visé, ciblé les bateaux qui aujourd'hui pourraient servir justement à contrôler ces zones-là. Ce que voudrait l'Europe, on le sait, Claire Maignal, c'est pouvoir opérer directement dans les eaux libyennes. Qu'est-ce qu'il en pense, lui ?
Ils sont absolument contre. Il y a quand même un sentiment d'une fierté nationale très forte. Ils sont contre, de même qu'ils sont contre toute intervention extérieure.
Claire Maignal, peut-être un dernier mot, parce que vous avez dit, c'est d'abord et avant tout, c'est vrai, des hommes qui tentent l'aventure, mais il y a aussi des femmes, et c'est peut-être encore plus dramatique pour elles. C'est d'ailleurs ce que vous dit l'un des personnages, une figure qu'on rencontre dans votre papier, qui est un révérend nigérien, qui évoque notamment le cas de cette jeune femme qui a 33 ans, qui s'appelle Mary Hawke, qui a laissé ses 4 enfants au Nigeria, qui rêverait aujourd'hui de pouvoir rentrer justement au pays. Vous nous racontez un peu son parcours, son histoire ?
Oui, alors elle a une histoire terrible, d'autant qu'elle vient de Lagos. On pourrait croire, pour ces gens qui fuient le Nigeria, qui viennent du nord, c'est-à-dire de Maïdougouri ou de toute la région attaquée par Boko Haram, en fait, très souvent, ils viennent de Lagos, donc attirés par des rêves d'Europe plus ou moins réels. Et elle pensait sincèrement qu'elle allait à Londres, dans le restaurant d'une amie. Et en fait, elle s'est pas réellement étonnée de ne jamais prendre l'avion. Elle a fait tout le trajet en bus, et puis elle s'est rendue compte en arrivant à Tripoli qu'elle était en Libye, et elle s'est retrouvée dans une maison close dont elle a fui, mais elle attrapait le sida, elle s'est retrouvée en prison, puis était à l'hôpital, enfin voilà. Donc on a des trajets comme ça qui sont organisés par d'autres filières. Elle n'a payé à aucun moment, tout son trajet avait été organisé par cette jeune femme qui était une de ses amies d'enfance, qui avait tenté de l'attirer dans ses filets, et ce sont en grande majorité des Nigérianes et des Ghanéennes.
Ils sont nombreux à vouloir, en tout cas, ou à même réussir à rebrousser chemin ?
Assez nombreux. En réalité, on en voit beaucoup à Agadez, qui ont été parfois rapatriés par l'UNHCR, qui ont été torturés en Libye et qui veulent rentrer. Ouais. Beaucoup, là, surtout en ce moment, en Libye, ça n'a plus grand intérêt pour eux de rester, dans la mesure où ils ne sont pas payés par les patrons, étant donné qu'il y a plus de forces de police, ils peuvent se retourner vers personne, et que souvent ils sont kidnappés, torturés, rackettés.
Réaction ici en plateau avec nos invités, Maximo Pola-Vasquez, François-Xavier Frelon.
C'est un pays pétrolier, la Libye, c'est ce qui m'attire tout particulièrement. Et cette question des rentes pétrolières qui est extrêmement compliquée parce qu'il y a un changement politique important. Le Venezuela avait réussi à éviter pendant 30 ans des violences de ce type entre 58 et 98. Et maintenant, on se retrouve dans une configuration plus classique que cette période de paix démocratique et sociale relative. Pas parfaite, loin de ça, mais pas les chaos d'aujourd'hui.
François-Xavier Frelon.
On voit surtout les faiblesses de ces différences nord-sud. Évidemment que certains parlent d'un plan Marshall pour l'Afrique, pour développer ces pays et faire en sorte que cette jeunesse un peu désespérée, sans emploi au Mali ou au Sénégal, puisse rester chez elle, dans leur pays, pour y vivre normalement et surtout convenablement. Évidemment, on est dans des zones extrêmement pauvres, où les gens, pour la plupart, vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Mais c'est important ce qu'il François-Xavier, le facteur décisif, c'est réellement
le développement.
Cette explosion démographique et le manque d'emploi pour la jeunesse.
Merci beaucoup, en tout cas, Claire Maignal, d'être passée ce matin. Je rappelle, donc, vous êtes journaliste, spécialiste de l'Afrique au service international du Point et lauréate du prix Albert Londres 2016. Bravo.
Merci.
Merci infiniment. Pour retrouver vos articles sur le site du Point, on mettra également des liens sur la page de Culture Monde. Merci infiniment. On va tourner notre page africaine pour se diriger vers l'Amérique latine. Alors que l'opposition pousse pour destituer le président Maduro, le Venezuela au bord de l'implosion, c'est notre sujet à présent.
France Culture. Culture Monde par Florian Delorme.
Ce Venezuela dans une crise économique, sociale, politique, institutionnelle grave. L'opposition est engagée dans un bras de fer avec le gouvernement pour faire partir le président Nicolas Maduro. Hier, les autorités électorales devaient se prononcer sur la possibilité d'organiser un référendum révocatoire. Le vice-président du Parlement, Enrique Marquez, avait mis en garde contre une explosion sociale s'il venait à être retardé. Et c'est le cas. La réunion a été repoussée, provoquant la colère de l'opposition et des manifestants.
Mi casa no hay nada, no me da vergüenza decirlo, pero yo hablo mi alacena y me da ganas de llorar.
Chez moi, il n'y a rien, ça me fait honte de vous le dire, ça me donne envie de pleurer, parce que je n'ai rien, rien. Et avec le peu d'argent que j'ai, je ne peux rien avoir. Je fais la queue de 5h du matin à 7h du soir, et je ne peux rien obtenir ici.
No consigo nada que comprar.
Estamos aquí protestando pacíficamente. No tenemos comida. No tenemos comida.
Nous manifestons ici de façon pacifique. Nous n'avons pas de nourriture. Ils veulent nous imposer un vote alors qu'ils n'arrivent pas à remplir les magasins et les épiceries. Nous ne voulons pas d'un vote. Nous voulons de la nourriture. Nous voulons pouvoir acheter ce que nous voulons.
Queremos comida. Queremos comida.
Voilà, des gens en colère, des gens qui ont faim. Depuis mai dernier, l'opposition rassemblait les 1,8 million de signatures nécessaires pour lancer le processus d'un référendum révocatoire. Il va donc falloir attendre un peu pour savoir s'il se tiendra ou non. Maduro peut-il encore garder le pouvoir? Voilà la grande question qu'on va se poser ce matin avec Paula Vasquez, François-Xavier Froland et Marc Semo du Monde, notre partenaire le vendredi. Marc, on va commencer avec vous, comme on fait chaque semaine. On se dit que c'est absolument incroyable que ce pays qui dispose de telles richesses, évidemment, et c'est un peu ce que disait Paula Vasquez tout à l'heure, hein, les premières, les plus importantes réserves de pétrole au monde, soit dans un état délabrement économique et social tel. Et on a là, évidemment, l'illustration parfaite de ce que disait Paula Vasquez, c'est la malédiction du pétrole.
C'est la malédiction du pétrole, mais c'est aussi la malédiction d'un régime. Mmh. Et avant tout, la malédiction d'un régime.
Absolument.
Parce que Hugo Chavez, donc le très populiste, défunt fondateur de ce régime, voulait faire du bolivarisme, hein, sa doctrine, un exemple pour toute l'Amérique latine et même ailleurs. Il avait d'ailleurs aussi ses émules en France. Et on voit aujourd'hui, dans cet effondrement, il y a quelque chose, un symbole qui va bien au-delà du cas du Venezuela. C'est une fin de cycle pour l'ensemble des gauches sud-américaines, mais le cas du Venezuela est le plus paroxystique. Dans les chiffres, d'abord, effectivement, ce sont les premières réserves pétrolières du monde. C'est un des pays les plus riches d'Amérique latine. Aujourd'hui, c'est un pays dans la misère, où les gens font des heures de queue et 90% passent l'essentiel de leur journée à essayer de trouver de quoi manger. L'inflation, alors, on évalue à 700% pour l'année prochaine, voire même 2500. La criminalité a totalement explosé. 119 homicides pour 100 000 habitants, c'est le taux le plus haut au monde. Et c'est... Alors ça a toujours été un pays violent, mais ça a été multiplié par 10. Et ça, c'est aussi par les distributions d'armes aux comités populaires qui sont devenus des bandes, des racketteurs. Il y a une corruption généralisée. Hein, là, actuellement, le Parlement enquête sur qu'est-ce que sont devenus les 69 milliards de dollars qui se sont évanouis. Donc pour toutes ces raisons, c'est un cas extrêmement intéressant, en même temps tragique, parce qu'on voit aujourd'hui une situation totalement bloquée. Le risque, effectivement, il est, comme tu disais tout à l'heure, sur un volcan. Et quelles peuvent être l'issue? Est-ce qu'on peut imaginer une espèce d'exfiltration à la fin de Maduro? Mais voilà, pour le moment, tout est possible.
Paula Vasquez, je voudrais vous entendre sur cette décision qui a été prise hier par les autorités locales qui devaient se positionner, savoir si oui ou non on lance le processus de ce référendum révocatoire. Finalement, on n'a pas pris de décision.
Mais c'est une tactique assez typique du Conseil national électoral qu'on soupçonne très fortement fidèle donc au parti et au gouvernement d'une part. D'autre part, c'est intéressant parce qu'on attendait une position plus dure par rapport à la question de la charte démocratique qui avait activé Almagro et les secrétaires de la OEA. Et comme ça c'est pas allé si loin que ça, mais on attend encore un autre vote. C'est toutes les rouages de la diplomatie. Donc, tout de suite, c'est assez impressionnant de voir comment le gouvernement de Maduro dit, on attend parce qu'il y avait la crainte de cette pression internationale, mais là, on la met en attente jusqu'au 10-12 juin.
Est-ce qu'on va pouvoir attendre?
C'est une très bonne question. Les mois de juin, c'est très difficile. Ça va commencer le deuxième semestre de l'anus horribilis, comme on dit, que c'est la 2016, parce qu'on va avoir les 700% d'inflation, ça c'est sûr. Je viens des réunions aux États-Unis avec des experts en économie. Et surtout, ce qui est intéressant de voir et important de dire, c'est que la récession avait déjà commencé avant la chute du prix du baril, parce que c'est l'effondrement d'un régime et d'un modèle.
On va revenir évidemment sur cette question du pétrole qui est absolument centrale. François Xavier Froland, sur ce référendum dont on ne sait pas s'il va avoir lieu ou pas, et finalement on se demande si même ça a de l'importance.
Oui, avant de parler du référendum, je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Marc Semo, qui a, à mon avis, totalement décrit parfaitement, quasi parfaitement, la situation au Venezuela.
Non, parce que sinon, j'allais rendre l'antenne.
Et je vais vous dire pourquoi, c'est qu'il manque quelque chose de très important, c'est que c'est la fin aussi d'un système qui a basé son régime pendant 10-15 ans sur le mensonge.
C'est un système qui a tout simplement fonctionné grâce à la propagande, grâce à l'argent du pétrole, qui pouvait permettre, à travers une reprise en main des médias, il ne reste plus aucune télévision d'opposition aujourd'hui au Venezuela, à travers aussi l'achat de bonne conscience en Europe, et notamment en France, vous avez des réseaux bolivariens très actifs, très intenses, pour nous faire croire que il s'agit d'un coup d'État contre un pauvre régime socialiste qui se fait front face à l'influence néfaste des États-Unis dans la région. On voit bien que cet exemple de décision, d'autoritarisme, grâce à une propagande qui a fonctionné pendant très longtemps, et même sous Chavez, Chavez s'en est beaucoup servi, en plus il avait pour lui d'être un grand orateur, ce qui fait que ça fonctionnait très bien, ce n'est plus le cas de M. Maduro. Aujourd'hui, on voit les failles de ce mensonge d'État avec un pays par terre et qui ne peut plus se cacher derrière de faux chiffres.
La question du mensonge, on y reviendra aussi. Paula Vasquez, avant de repasser la parole à Maximo, cette misère. Aujourd'hui, on a dit une inflation, je crois pour l'année, là, on est sur des 700-800% pour cette année.
Et 2500 pour l'année prochaine.
Voilà, l'essence à Caracas a explosé en début d'année. Je crois qu'on a eu des taux de 6000% pour le mois de février. C'était absolument colossal. Les magasins sont vides, les hôpitaux sont dévastés, on manque de viande, on manque de lait, les supermarchés sont pillés. Comment est-ce qu'on fait pour vivre aujourd'hui à Caracas, au Venezuela?
On survit.
On est dans une situation de misère famélique.
C'est une situation extrême. Il y a des chiffres intéressants. Le problème, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de chiffres officiels. Par exemple, pour faire des enquêtes en santé publique, c'est très difficile parce que c'est interdit de diffuser des chiffres. Ce qu'on appelle les bulletins épidémiologiques sont fermés. Donc, nous, chercheurs, on n'a pas accès aux données. Mmh. On n'a pas accès aux données non plus de la violence. Ça, c'est des chiffres obtenus par la presse, etc. Donc, ça peut être encore plus haut le taux de criminalité, d'homicide. Donc, on survit, c'est la survie. Pour vous donner un exemple, au taux d'échange actuel, que c'est le réel, c'est celui du marché noir. Les salaires des professeurs universitaires, c'est des 36 dollars par mois, par exemple. Et les paniers de la ménagère, les paniers de base, c'est environ 200 dollars. Donc, en effet, les gens ont un salaire pour acheter un poulet et une douzaine d'œufs. Donc, c'est une situation
on
terrible.
On est en situation de famine ou pas?
Oui, ben, je pense que oui. D'après les choses que j'ai vues de la fondation Bengoa, que c'est une fondation très sérieuse, il faudrait voir, parce que là, c'est une question pas seulement de la famine silencieuse, qu'on appelle ça pour, par exemple, la relation taille-poids des enfants, qui s'est dégradée à coup sûr, mais on a aussi l'amaigrissement. C'est les pas suivants de la famine silencieuse. Ça, c'est assez impressionnant de voir, plus la question de l'accès aux médicaments. Pourquoi? Parce que les sociétés importatrices, et ça, il faut le comprendre, comme c'est un pays qui dépend des importations, on a fait de l'État une grande entreprise d'importation de nourriture corrompue. Donc, il y a quelqu'un qui est resté avec cette énorme quantité de dollars issue du boom du pétrole entre 2006 et 2012. Il y a eu, dans l'histoire du prix du pétrole, la plus grande hausse du prix du pétrole. Il est où cet argent? Il est où? Parce que c'est l'argent qui était destiné donc à importer, puisqu'on a visé sur une économie complètement pétrolière, parce qu'on a dévasté avec les expropriations l'autre économie.
Donc c'est un système. Et alors, ben, je vous pose la question, il est où cet argent?
Il est où cet argent?
Ce qu'on dit, c'est qu'une partie de l'argent est partie du côté de l'armée. Et l'armée, on sait, ça va être décisif. On va voir. Là, on sait que Maduro a commencé déjà à activer un petit peu.
C'est ce qu'on voit. Les sommes dans les Panama Papers, par exemple, des entreprises fondées par des militaires vénézuéliens sont faramineuses. C'est pas les sommes qu'on voit des hommes politiques européens, d'une part.
D'autres pays les plus cités, d'ailleurs, dans les Panama Papers.
C'est les pays les plus cités des Panama Papers. Donc, il y a un détournement gigantesque, inimaginable, de 3-4 fois les PIB d'un pays de l'Amérique latine, quoi, d'un pays de l'Amérique centrale, dans ces 6 dernières années. Donc, c'est quelque chose. Et c'est là où il y a l'argent, parce que donc on n'importe pas de nourriture et les gens n'ont pas accès à la nourriture. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, que ça a été pour les gens au Venezuela, c'est que le gouvernement, en plus, a décidé d'arrêter la distribution au marché privé des produits régulés. Ça veut dire que maintenant, il y aura du clientélisme politique dans la distribution des produits de base régulés. Régulés, ça veut dire que les gens les peuvent acheter, parce que les autres, les gens ne le peuvent pas. peuvent pas acheter tellement sont chers. Donc là, oui, on est dans une situation du jamais vu je dirais pas famine, parce qu'il y a des questions techniques sur ça, mais d'un accès d'aliments avec des conséquences très importantes, surtout pour les enfants, à cause du manque des protéines.
Marc Sémo.
Oui, mais alors, tout ça existait déjà au temps de Chavez.
Non.
Maduro l'a accentué. Est-ce que c'est par son incapacité, ou simplement, effectivement, tous ces trucs sont maintenant mis ensemble, et lui, comme il est quand même n'a pas l'aura et le charisme politique de son prédécesseur, n'arrive plus à gérer cette situation.
François-Xavier Froland, on va faire tourner la parole, si vous voulez bien, François-Xavier Froland.
Ces mots structurels étaient dès le début présents dans le régime.
Dès 2002, dès les premiers soubresauts de ce pays et une tentative de coup d'État pour le coup en avril 2002 qui a échoué, où on se souvient du retour de Chavez en hélicoptère après s'être exilé quelque temps, après avoir été exilé quelque temps, on voyait bien que déjà, il y avait un début de crise au Venezuela, même si, effectivement, à l'époque où le pétrole était encore une rente très intéressante, on pouvait encore offrir des missions, on pouvait encore illusionner un petit peu le peuple, qui en a quand même profité. Il y a eu des choses certaines, notamment en termes de médecine, etc., en termes de logement aussi, un petit peu. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, Maduro est coincé. Il s'est retrouvé avec le legs de Chavez. Je pense que Chavez, d'ailleurs, n'aurait pas fait mieux s'il était actuellement au pouvoir. C'est ça qu'il faut surtout dire. Le pauvre Maduro a récupéré une situation déjà catastrophique qui se voyait venir depuis longtemps. Nous, les observateurs, depuis 2007-2008, on voyait que ce pays était en train de foncer dans le mur.
Et vous étiez sur place à l'époque.
J'étais sur place de 2008 à 2013. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression que Maduro cherche une sortie de secours, mais qu'il est un petit peu acculé par une opposition qui attend son heure, qui est impatiente. Et le problème va être effectivement de trouver la sortie pour que finalement les Vénézuéliens s'entendent et qu'il n'y ait pas un bain de sang.
Avant la sortie de secours, justement, et je voudrais peut-être évoquer la question de l'armée avec vous, François-Xavier Froland. Maduro a récemment demandé à l'armée de procéder à cet énorme exercice militaire, 500 000 personnes, une opération baptisée Indépendance 2016, visant à préparer le peuple, je cite, à défendre la patrie. C'est ce qu'a expliqué le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López. Est-ce qu'il faut comprendre là ce geste comme étant finalement le signe que Maduro essaye d'ériger là, finalement, la dernière digue qui va pouvoir sauver? Et puis plus généralement, quel rapport est-ce qu'il entretient avec l'armée?
Alors, il faut savoir qu'il y a quand même une grosse chasse aux sorcières depuis Chavez. Dans l'armée, il y a énormément de généraux qui sont actuellement sous les verrous, dont Baduel, qui est un des plus connus. Et évidemment, aujourd'hui, vous avez normalement des fidèles qui dirigent l'armée, et pas les meilleurs en général. D'ailleurs, des types qui sont passés de grade très moyen à généralissime. Donc, on voit évidemment que cette armée bolivarienne tient grâce à ses promotions amicales.
Mais grâce à l'argent du pétrole.
Grâce à l'argent du pétrole. Il est vrai que l'armée vénézuélienne, elle fait un peu rigoler dans la région. Je peux vous dire que pour l'avoir suivi un certain nombre de fois, elle n'a pas très bonne presse. Elle est certes un peu armée. Ils ont acheté beaucoup d'armes aux Russes, notamment. Elle est certes encadrée, et même parfois par des spécialistes venus de pays extérieurs. Mais elle n'est pas très bien entraînée. On se moque beaucoup au Venezuela de ces militaires un peu gros, un peu pas très physiquement en force. Ça prouve un petit peu qu'il y a un certain malaise. Et ça prouve surtout que c'est une armée un petit peu d'opérette, l'armée vénézuélienne. Alors après, ce qui est plus dangereux que l'armée elle-même, ce sont ces milices bolivariennes qui, là, pour le coup, font craindre le pire, parce que ces milices bolivariennes, ce sont des civils, souvent des voyous, des bandits, qu'on a armés et qui sont prêts, eh bien, à descendre dans la rue parce qu'on les a payés pour ça, pour tuer, et non pas pour défendre même pas le régime, pour tuer, tout simplement. Donc là, on peut craindre le pire. Si Maduro s'appuie sur cette manne, là, c'est très dangereux.
Paula Vasquez, est-ce que Maduro peut s'appuyer sur l'armée? Est-ce qu'elle est prête à le défendre?
C'est un régime militaire. C'est un régime militaire, la révolution bolivarienne. Ça, il n'y a aucun doute. Et l'homme fort de ce régime militaire, c'est Diosdado Cabello, que c'était le vice-président avant de l'Assemblée nationale. C'est l'homme fort du régime. Et peut-être elle n'est pas très forte, l'armée vénézuélienne, pour des grands exercices et des manœuvres, etc. Les voisins, en effet, n'ont pas très grand-chose à craindre, mais ils sont très forts en répression. En répression interne. Ils font de l'intelligence, comme on dit, du renseignement. Parce qu'il y a Cuba aussi. C'est une présence très importante dans l'effort militaire vénézuélien. On n'a pas de chiffres exactement de combien c'est la présence cubaine au Venezuela. C'est impossible de savoir. C'est pas officiel. C'est pas assumé. Mais c'est un niveau très, très, très important.
Mais est-ce que l'armée pourrait lâcher Maduro?
Mais est-ce qu'il y a des corps d'élite dans l'armée, genre la garde présidentielle? oui, tout ce qu'était le régime raciste irakien.
C'est ce que j'ai dit. Vous pouvez voir les Sebin, par exemple, que c'était l'ancien disciple. C'est les renseignements militaires qui ont des infiltrations extrêmement fortes et qui ont... si on voit la question de la criminalité, vous savez que les douilles des balles dans un affrontement des gangs à Caracas, les douilles des balles viennent de Cavim, que c'est l'entreprise militaire de fabrication d'armes à feu. C'est l'entreprise nationale. Donc ça veut dire que les munitions qu'utilisent les réseaux des délinquants viennent, les munitions et les armes viennent des forces de l'ordre vénézuéliennes. Donc ça, c'est une situation, justement, c'est une situation explosive qu'on a fait, parce que là, on a laissé faire, et c'est le paradoxe. C'est pas un régime, donc c'est la répression interne en jouant avec les chaos sociaux, que c'est une manière de contrôler la population parce que la population a peur. Parce qu'on dit toujours, mais pourquoi vous manifestez pas plus? Et pourquoi il n'y a pas plus de résistance?
Parce qu'on risque nos vies.
Mais bien sûr.
Mais je repose ma question, est-ce que Maduro pourrait être lâché par l'armée?
Je pense qu'il faut pas compter sur ça. Je pense que l'opposition vénézuélienne a fait le choix de la voie démocratique, et que c'est extrêmement dangereux parce qu'on sait pas, c'est pas un jeu net, aller négocier avec les militaires pour essayer d'enlever le soutien. Ils ont été favorisés. Ils reçoivent 15 mois de salaire, les militaires. Ils gagnent 25 plus qu'un professeur universitaire, même plus. Donc, c'est des prébendes. Des privilèges d'une toute une classe, c'est ce qu'on appelle la bolie bourgeoisie. Pourquoi? Parce que dans ces entreprises qu'on a créées pour importer de la nourriture et que beaucoup sont fausses, c'est des militaires qui sont. Vous avez des militaires vénézuéliens qui ont des chevaux de course en Floride qui coûtent 25 000 dollars chacun. Donc vous avez des sommes incroyables accumulées pour cette classe. Je ne pense pas qu'il ne faut pas compter sur ça. Et surtout, ça peut être pire. Ça pourrait être encore pire, un coup militaire, c'est encore plus effrayant.
Alors, il ne faut pas compter sur l'armée, il faut compter sur la politique, il faut compter sur la démocratie. Paula Vasquez nous disait, finalement, l'opposition a fait ce choix de la démocratie. L'opposition, justement, François-Xavier Froland, la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, la table de l'unité démocratique, créée en 2008, elle avait réuni 64% des suffrages en décembre dernier, obtenant 107 des 167 sièges, et donc est devenue majoritaire au Parlement. Elle rassemble des composantes extrêmement différentes. Ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Est-ce que c'est pas ça justement sa faiblesse? C'est pas un bloc homogène?
Alors, je crois que c'est plutôt
et
ça...
ces divisions internes finalement favorisent, voilà, permettent à Maduro de se maintenir?
Non, alors absolument pas. Okay. Je vois pas de grosses divisions. Alors évidemment, il y a toujours des batailles de leadership, mais il y a pas de grosses divisions sur l'essentiel, qui est de faire tomber un régime qui est aux abois.
Il y a quand même deux voies. Il y a la voie démocratique et il y a la voie de la révolution.
Alors, le problème, c'est que la voie démocratique, ça fait 14 ans ou 15 ans qu'ils essayent d'arriver à leur fin, qu'ils n'y arrivent pas. Donc évidemment, il y en a qui sont un petit peu plus pressés, qui se demandent s'il ne faut pas y arriver par la violence.
Si ça, c'est pas une division, qu'est-ce que c'est?
Oui, enfin, ça existe dans tous les régimes, dans toutes les oppositions. Enfin, je veux dire, voilà. Mais ce qui est important quand même aujourd'hui, c'est que face à ce régime de Maduro, il y a quand même une volonté commune d'arriver à des fins. Il faut quand même rappeler que l'opposition a été décimée. Vous avez trois personnalités, pas des moindres, Leopoldo López, qui est en prison. Vous avez Rosales, l'ancien maire de Caraïbo, de Maracaibo, qui a été l'opposant à Chavez aux élections de 2007, qui est en prison. Vous avez Ledesma, qui est le maire de Caracas, qui est en résidence surveillée. Et vous avez
encore 80 jeunes
étudiants en prison actuellement. Donc c'est quand même la grosse différence peut-être avec Chavez, c'est qu'effectivement le régime est devenu beaucoup plus répressif et qu'aujourd'hui il vous reste que deux ou trois figures d'opposition très importantes. Mais le principal acteur de cette opposition, c'est Capriles Radonski, qui est finalement le plus habile de tous, qui depuis le début défend la voie démocratique et cherche au dialogue. Il veut le dialogue avec Maduro. Il veut y arriver par les voies institutionnelles.
Alors, les doigts se lèvent, on va essayer de faire dans l'ordre. Marcemo et puis Paula Vasquez. Marcemo. Là,
justement, d'abord, cette opposition, il y a quand même une lame de fond très forte. C'est-à-dire les élections de décembre dernier.
Hein, qui étaient législatives.
Avec des médias aux mains du régime, avec aucune condition pour un scrutin équitable était garantie. Et malgré ça, ils ont eu quasiment les deux tiers des sièges à l'Assemblée. Ce qui montre à quel point, malgré toutes les pressions du régime, il y a cette lame de fond. Ensuite, justement, je pense qu'il y a un deuxième facteur qui joue, c'est que contrairement à l'image que veulent donner les réseaux bolivariens en France, ce sont des gens d'extrême droite, quasiment des fascistes aidés de l'extérieur et tout, c'est une opposition qui va, pour l'essentiel, qui est aussi entre sociaux-démocrates et chrétiens et démocrates chrétiens.
Exactement.
Hein, Enrico Enrique Capriles étant Radomski étant plus ou moins qui est son premier parti qui est un démocrate chrétien. Donc là aussi il y a cette crédibilité et malgré tout, on peut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites depuis quelques années, c'est-à-dire et qui vont dans le sens d'une voie démocratique, c'est-à-dire malgré la répression, malgré les gens arrêtés, etc. Elle a gagné en puissance.
Oui, c'est bien la force de l'opposition, en effet, c'est l'Assemblée. Et ce qui s'est passé, en fait, les 6 derniers mois ont été très importants pour comprendre la situation actuelle, parce que comme il n'y a pas de séparation des pouvoirs, donc on peut se demander si c'est encore une démocratie, les tribunaux suprêmes de justice, les conseils constitutionnels, disons, à chaque fois que l'Assemblée nationale, un majoritaire d'opposition, fait une loi, elle est déclarée anticonstitutionnelle par le tribunal suprême de justice. Donc, c'est un coup d'État, c'est un coup législatif. C'est complètement neutraliser la possibilité de fonctionner du seul corps d'opposition qu'il y a au sein de l'État. Donc, ça a créé des violences et des tensions énormes. C'est une explosion politique. On se demande d'ailleurs pourquoi avoir choisi cette tactique et n'est pas justement, c'est là, l'Assemblée nationale, c'est l'espace des dialogues et le gouvernement de Maduro a fait tout pour neutraliser toute possibilité de dialogue avec cette opposition qui a pris le pouvoir. Mais aussi, la question du militarisme, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est une négociation permanente, presque clandestine, avec des élites militaires de la part du gouvernement de Maduro. Et ça fait que les marges de manœuvre d'une opposition qui fait les choses dans un espace de dialogue ouvert soient soumises à des types qui négocient en secret avec on ne sait pas trop qui, quoi.
François-Xavier Frelon.
Ouais, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, c'est plutôt une critique de la vision qu'on a vue de France, de ce qui se passe au Venezuela. Il y a une sémantique insupportable. C'est celle de, quand on parle d'un État, un régime pseudo-socialiste, voire dictatorial, on parle de coup d'État contre lui. Alors, c'est forcément les méchants armés par les Américains qui vont renverser cet homme qui fait front, etc. Quand on parle de présidents néolibéraux, c'est toujours, alors là, une manifestation citoyenne, c'est un grand mouvement citoyen qui renverse un dictateur. Voilà, c'est exactement le problème aujourd'hui avec le Venezuela, c'est qu'on n'arrive pas à sortir de cette sémantique totalement, je dirais, mensongère, qui fait que le pays en profite, le régime en profite, parce que finalement, il se couvre de cette bénédiction des bien-pensants qui nous font croire que le Venezuela est en fait sous l'action de quelque chose qui vient de l'extérieur, alors qu'en réalité, il est un régime avec des dérives dictatoriales évidentes, autoritaristes, et que aujourd'hui il a un peuple contre lui. C'est pas un petit tiers de la population, c'est 70% qui veulent le départ de Maduro.
Deux choses. Pour revenir à la question du référendum qui m'a été posée tout à l'heure, si le référendum n'a pas lieu cette année et a lieu l'année prochaine, le pouvoir va au vice-président. Que c'est Aristóbulo Istúriz, c'est-à-dire un homme du gouvernement. C'est pour ça la question.
On réorganise pas de présidentiel.
Non, voilà. Donc, exactement. Donc, la question du référendum, c'est une question aussi des timings politiques. On connaît bien que le régime de Chavez, qui a créé au niveau politique, a été très, très habile pour jouer dans les délais des élections. Donc, c'est ce qui est en train, parce que l'opposition est toujours à court, n'a jamais assez de temps. Et ça, c'est une chose intéressante. Et l'autre chose, c'est, au début de l'émission, on a mis l'enregistrement d'une manifestation à Caracas. C'est très clair, il faut écouter ce qu'ils disent.
C'était il y a quelques heures, hein.
Ils disent, il n'y a pas de consignes politiques dans ces manifestations. On est en face des émeutes, des pénuries, des émeutes de la faim, quoi. Donc, et ils disent « tenemos hambre ». Donc, c'est, il n'y a pas... Et après, ils disent « oui, il faut faire un référendum ». Mais bon, ça va prendre du temps et la question,
oui,
non, c'est...
Mais d'ailleurs, certains disent, et on l'entendait, la question du référendum, c'est pas la question, on s'en fiche de ce qu'on veut, c'est manger.
C'est ça la révolution, d'ailleurs. Et c'est ce qui est très, très difficile, et ça va être extrêmement dur cette année, c'est que la seule possibilité pour cette État importateur d'avoir des devises, c'est un emprunt international. Or, depuis 2014, le Venezuela n'a pas accès aux marchés internationaux d'emprunts. On n'a pas accès aux fonds monétaires depuis 2014. Donc, la personne qui vient, d'où va sortir l'argent pour essayer d'importer de la nourriture? C'est un peu la question. Parce qu'on n'a pas, tout justement, l'État n'a pas de devises. Elles ne sont pas dans les caisses de l'État ni dans la Banque centrale.
Paula Vasquez, dernière question peut-être en guise de conclusion. Je voudrais revenir sur Enrique Capriles, qui est donc le chef aujourd'hui de la MUD, qui est donc ce choix du chemin de la démocratie finalement, et pas de la révolution. C'est un avocat, c'est l'ancien maire de la municipalité de Baruta, qui a été aussi gouverneur de l'état de Miranda, qui est ce petit état du nord du pays. Quel genre d'homme politique il est? Est-ce qu'il incarne l'avenir du pays? Et admettons, faisons une hypothèse, l'opposition obtient le départ de Maduro, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que ça changerait? Au fond, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui pour cette opposition?
Mais Capriles, disons que lui, il essaye pas d'essayer. Il essaye, en fait, son stratégie a été toujours de capter l'électorat chaviste. C'est là où il se positionne, de capter cet électorat déçu d'une société plus socialement plus juste. Donc parfois, on est un peu désespéré de les voir, de ne pas condamner directement, justement pour ne pas énerver cet électorat chaviste. Là, il a une configuration nouvelle, c'est que l'électorat chaviste, il est énervé par nature. Quoi. Donc c'est une configuration. Le problème, c'est que faire des promesses, n'importe qui va prendre le pouvoir fera des choses qui vont être extrêmement dures, parce que c'est la macroéconomie qui va dominer les scénarios politiques à venir. Or, les chefs de la MUD, c'est pas Capriles, c'est Chuo Torrealba. Donc, en plus, il y a des figures, en effet, il y a le chef le président de l'Assemblée nationale, qui est Henry Ramos Ayub. Donc, là, en effet, c'est différents courants, c'est différent. La question, c'est comment ils vont se positionner. Mais c'est Capriles qui a eu les voix, qui a eu 7 millions de voix, quand même.
François-Xavier Frelon.
C'est un peu le leader historique, parce que c'est comme celui qui a failli mettre en difficulté Chavez en 2012.
Oui, il avait perdu de peu, 44%.
46-54. Ouais. Après, encore plus, il avait fait un très bon score face à Maduro, qui avait gagné avec un peu plus de 50%. Donc on voit bien qu'il a quand même, dans les urnes, une certaine crédibilité. En plus, c'est un personnage qui est finalement assez fascinant, parce qu'il ressemble à Chavez, bizarrement. Pas physiquement. Il ressemble à Chavez un petit peu dans le populisme. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il faut parler au cœur des Vénézuéliens, et je rejoins...
Et d'ailleurs, il le fait tout le temps, via Periscope. Moi, je vais régulièrement voir ce qu'il nous dit. Il nous disait encore des choses hier soir.
Il sait parler aux Vénézuéliens, ce qui est une des clés de la réussite politique pour un homme dans un pays qui fonctionne quand même beaucoup à l'affectif. Et ça, il l'a compris, tout en jouant la carte de la démocratie. C'est tout à son honneur.
C'est l'avenir du pays ?
La démocratie ?
Capriles.
Ah bah évidemment.
Capriles.
Je pense que cet homme-là, de tous ceux qui se sont usés à tenter d'obtenir le pouvoir ou par la violence ou par d'autres formes, c'est celui qui tient le coup. Et Maduro est très embêté parce qu'il n'arrive pas à le déjouer. Il n'arrive pas à le mettre en échec puisque Capriles joue toujours le jeu de la démocratie.
Il est Leopoldo López aussi en prison. Il est Leopoldo López aussi en prison, qui serait un peu la rivalité de cette opposition.
Si je me souviens bien, il est en prison parce qu'il avait appelé justement, je crois que c'était en février 2014. À la révolution.
Et tout à fait, c'est une stratégie qui
a été
échoué,
extrêmement vite
c'est la salie,
jugée, et il s'est retrouvé en prison pour quoi? 13 ans, je crois.
Oui, tout à fait, c'est une sentence. C'est surtout qu'on peut parfaitement pas être d'accord avec Leopoldo López à niveau politique, mais son procès va passer aux annales de l'histoire juridique comme la chose la plus injuste, je pense, dans une démocratie latino-américaine. C'est une chose, c'est des preuves fabriquées, et le procureur qui a fourni les preuves à l'État est parti à Miami et a avoué que tout était faux dans les dossiers. Donc c'est une chose assez... Et il est encore en prison.
Capriles, c'est le successeur de Maduro ?
Je ne pourrais pas le dire. Ça, c'est aux Vénézuéliens de voir.
Mais vous êtes vénézuélienne.
Non, oui.
François-Xavier Frelon, le mot de la fin.
Oui, non, juste que Leopoldo López, je ne suis pas sûr que la tactique de la victimisation séduise beaucoup les Vénézuéliens. Et en plus, il a contre lui de passer pour un dur, donc il n'arrivera pas à séduire les anciens chavistes.
Se despertó la calle, no hay manera de dormirla. No somos nazis, ni fascistas, ni imperialistas. Somos un pueblo arrecho que busca una salida. Maduro, estás en 3 y 2, esta es tu despedida. Las calles full de huecos, inundadas en basura. Se va la luz, el agua y esas empresas son tuyas. ¿Cuál guerra económica tienes tú en la cabeza? No se consigue Gandhi, solo vende PDVSA. Nos quieren dejar hasta sin dólares pa' viajar.
La colère contre Maduro, on l'entend là, hein, c'est des rappeurs vénézuéliens qui disent tout le mal qu'ils pensent de Maduro. Merci beaucoup à tous, Paula Vasquez, François-Xavier Froland, je rappelle votre ouvrage qui veut la peau d'Hugo Chavez, et un grand merci également à Claire Ménial qui est restée avec nous et qui est donc le prix Albert Londres 2016, presse écrite. On peut retrouver vos articles qui sont parus dans Le Point. Merci beaucoup, merci à tous.